Oui, ça va, la
Ah ouais.
subvention.
Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très complexe, parce que quand on a parlé des modes de contamination, on a parlé de la subvention et des marchés publics, mais à côté de ça, il y a d'autres modes possibles, notamment la délégation de services publics, et qui est utilisée dans un certain nombre de cas, dans ce cas, c'est-à-dire qu'une collectivité confie à une structure délégataire l'exploitation d'un service. Et là, on est dans le cadre d'une délégation de services publics
Sans appel d'offres?
qui est hors subvention et
Une mise en concurrence.
hors
Il y a une
marché
mise en
public.
concurrence. Voilà,
Il y a une mise en concurrence qui est possible, mais il y a également toute la possibilité, et qui est reconnue par l'Europe, même si c'est de la gestion, comment dire, à l'interne, hein, par une collectivité, donc la gestion in-house, c'est
Voilà,
ça?
enfin, oui, alors c'est...
Par une collectivité qui a la possibilité de confier à un organisme composé uniquement de
Qu'elle
collectivités
maîtrise
locales,
en fait, qu'elle
qu'elle
dirige,
dirige.
etc. Et c'est pour ça
Ouais.
que là, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'application il n'y a pas d'application, en tout cas, du code des marchés. Simplement pour revenir sur la distinction entre délégation de services publics et marché public, alors, pour le coup, on n'est plus sur la subvention. Mais c'est la même chose. En fait, je peux exactement gérer la même activité via un marché public de services ou via une délégation de services publics. La seule différence qu'il y a, c'est sur le mode d'exploitation, où dans un cas, la jurisprudence nous dit, d'ailleurs je crois que ce n'était pas très loin d'ici, que l'exploitation doit se faire au risque, alors c'est au risque et aux frais et risques du délégataire, et que sa rémunération est substantiellement perçue par des redevances sur l'usager. Voilà, c'est tout. Un marché public de services, c'est la collectivité qui paye. Un délégataire, il va percevoir des redevances. C'est Veolia, c'est... Mais je peux faire la même chose. Je peux avoir un marché public de services sur la gestion de l'eau. Je peux avoir une délégation de services publics.
Et je peux avoir une régie directe.
Et je peux avoir
Une régie
un
directe sur la
interne
gestion de
via un
l'eau.
marché, ce qu'ils appellent les marchés in-house. C'est simplement que, ça rejoint ce que vous disiez, une collectivité va créer une entité. Alors le problème, c'est qu'on est aux frontières du... Alors c'est vraiment le droit français. Et après, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on est à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il y a des directives européennes qui arrive et qui essaye de gérer un peu l'ensemble des droits des différents pays. Le droit administratif français est quand même particulier. Du coup, la collectivité va créer une structure associative ou autre qu'elle va complètement maîtriser, et elle va lui déléguer, lui confier un certain nombre de prestations. Et dans ce cadre-là, on va dire, ouais, mais en fait, elle va dire, ouais, mais c'est moi, en fait. C'est pas moi, mais c'est moi. Donc du coup, je n'ai pas à m'embêter avec les règles. Et si en même temps, je peux y mettre des gens que je connais, ça me permet, voilà, la boucle est bouclée. Je pense que c'est vrai, mais c'est un peu... Enfin, voilà. Alors, c'est le cas notamment dans le domaine du spectacle. Il y a plusieurs salles des équipements culturels qui sont pas, entre guillemets, encore une fois, hein, propriété de la commune, mais qui sont considérées comme in-house. Donc, on n'a pas d'application du code des marchés. Mais encore une fois, cette notion de subvention, c'est vrai que... c'est difficile pour revenir à ce que vous disiez sur les temps d'activité préscolaire, parce que ça va vraiment dépendre du contexte. Que souhaite faire la collectivité? Est-ce qu'elle a elle-même, elle décide de lancer un marché public? Mais on ne va pas se leurrer, elle lance un marché public si elle connaît les capacités des assos sur son territoire. Sinon, elle ne lance pas de marché public. Parce que si elle lance un marché public, il n'y a personne qui répond. Mais du coup, là, le maire, enfin, ça ne fonctionne pas. Si elle le fait sans connaître les capacités de ces structures, ça ne répond pas. De la même manière, si vous demandez à un fournisseur de vous livrer 100 tonnes de carottes par jour, hein, et qu'il n'est pas capable de le faire, vous avez perdu. Donc tout le temps passé, ça ne marche pas. Dans ce cadre-là, on va dire, il aurait été plus judicieux peut-être d'aller rencontrer les associations du territoire, de voir ce qu'elles sont capables de faire, et du coup de co-construire via un autre schéma, un appel à projet, un appel à initiative, tout ce qu'on veut. Mais parce que le but du jeu, c'est quand même d'arriver à ce que les gamins soient occupés. Mais on n'a pas assez de recul. En tout cas, sur l'étape des temps d'activité préscolaire, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul. Et du peu que j'ai pu observer, moi, mais vraiment en tant que à l'école où sont mes gamines, ou à côté, dans les communes voisines, en discutant avec les responsables marché ou les services jeunesse, bah, tout le monde, ça flotte, quoi. Ça flotte parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire ces choses-là. Parce que comment mobiliser? En fait, c'est très concret. C'est comment dire à une assoce, ben, il me faut une personne. Il faut que la personne, elle soit dans trois écoles différentes au même.
On est plus dans le cadre de la subvention.
Alors peut-être, juste pour, peut-être pour...
Non mais, parce que, c'est vrai que moi j'en reste à la loi et la subvention, excusez-moi, je ne reviens pas au passé, parce que la loi, elle va être applicable dans deux mois. Donc, on ne va pas revenir au passé de ce qu'on faisait au passé. On le connaît tous, on est tous engagés, donc ce n'est pas le passé qui m'intéresse. C'est que maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est ça qui m'intéresse. Et je veux dire, à partir du moment où il n'y a plus si on parle de... c'est plus une initiative de l'association. Imaginons que le maire dise, bon, on va faire de la musique périscolaire, et ben il y a deux associations qui font de la musique dans ma commune. Bon, je connais le copain, là, il fait bien de la musique, on va plutôt le donner à celle-là. Donc, à la limite, je me pose la question, mais est-ce que l'autre association ne pourrait pas dire, oui, mais attendez, je fais aussi de la musique, moi. Vous auriez dû consulter. Mais c'est vrai que je vois la loi, c'est dans un mauvais sens.
C'est pas ce qui se passe.
Non, vous êtes toujours dans le passé. Moi, je suis pas à l'avenir.
Mais je crois qu'on dit à peu près la même chose. C'est que, globalement, on n'a pas vraiment de réponse claire là-dessus. Sur qu'est-ce qui va se passer avec cette loi, avec ce cadre.
Oui, mais si
ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans une logique de rationalisation, on tend à aller de plus en plus vers des dispositifs d'appel d'offres. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose, nous, on le sait. Notamment pour les associations, notamment pour des missions qui concernent l'intérêt général, par exemple l'éducatif. Là-dessus, je crois qu'on a tous un peu des craintes, des doutes sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il y a une vigilance à exercer là-dessus, de citoyens, de militants associatifs, qui est aussi, en allant voir ces élus, les techniciens, de rappeler que le marché public n'est pas le seul mode de contractualisation entre une association et une collectivité, et qu'on peut évidemment rester dans le cadre de la subvention, qu'il est légal et qu'il n'est pas à remettre en question, et que dès lors qu'on est dans des missions d'intérêt général et au service de l'intérêt général, ils ont plutôt intérêt à aller vers ça.
Alors là, je parlais aussi du passé. Dans le passé, les élus et les techniciens étaient plutôt frileux, pas trop maîtres de l'article 28 que je ne connais pas, 30 non plus, mais ils l'utilisaient peu parce qu'ils disaient on va aller devant les tribunaux, ils vont dire tiens, ils ont mis telle chose dans l'article 28, pas dans le 30, enfin, je ne sais pas, ils vont mettre des choses et que c'est peut-être illégal, ça a faussé la concurrence, donc il y a eu des gens. Donc on ne met rien. On ne met pas de clause sociale, et comme ça, c'est facile. Parce que la loi, effectivement, la clause sociale, ça existait, mais on n'en met pas. Donc, on n'en met pas. Et là, on va nous dire que, parce qu'il y a la nouvelle loi, les gens vont tous en mettre, ça, je ne suis pas sûr non plus.
On va justement venir à la commande au marché.
Ils n'en mettaient pas auparavant, pas parce que c'était interdit, c'est parce qu'ils étaient frileux. Et les élus disaient, on ne peut pas. Le technicien disait, on ne peut pas. Le juridiste dit, attention, si vous mettez ça, vous risquez que... Donc, je veux dire, on ne le faisait pas par le passé. Et je ne voudrais pas quand même qu'à travers cette définition de la subvention, parce qu'on revient, cette définition de la subvention, on crée justement bien quelque chose de bien carré, ce qui veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans le carré peuvent dire, bah, attendez, là, vous êtes né là, vous êtes là, et le fait de l'avoir bien fait, ça risque de créer des portes ouvertes à ceux qui veulent titiller, dire, ben ça, vous auriez pu, ça. Et c'est ça, moi, qui veux...
On va laisser la parole à Agnès, et puis on va venir à la commande publique, parce que je pense que le témoignage aussi du concessionnaire de l'Allier et de la centrale va apporter des éclairages.
Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est aussi une occasion pour, et le secteur associatif et les élus, de se réinterroger sur... sur leurs relations et du côté des associations, pour le coup, aussi de se réinterroger sur leurs projets associatifs, parce qu'on sait bien qu'il y a des associations qui sont très dynamiques, mais on voit bien au fil de l'eau, au fil des ans, les associations, elles se sont... le projet associatif, il peut diminuer, voire disparaître. Et du coup, comment est-ce que l'association s'adapte aussi à des nouveaux contextes? Et sur le périscolaire, dans un certain nombre de communes, les associations d'éducation populaire qui étaient présentes, qui étaient subventionnées, ont refusé de participer au périscolaire parce que ça ne correspondait pas à leur projet associatif. Bah oui, mais c'est quoi l'intérêt général? L'intérêt général, est-ce que ce n'est pas de se dire on se met tous ensemble autour de la table pour construire un projet d'éducation pour nos enfants qui corresponde, peut-être que la réforme des rythmes scolaires n'est pas la meilleure qui aurait pu, mais en tout cas, c'est peut-être aujourd'hui, elle est là. Et voilà, et je pense que ça aussi, c'est un dialogue qui doit aussi se reconstruire avec les associations, parce que, donc là, on échappe en fait à la commande publique. Si l'association a un projet associatif moteur, la ville, elle n'aura pas à subvention, elle ne passera pas en marché public, elle aura des acteurs sur son territoire qui satisferont au-delà de son propre, de ses propres besoins.
Je suis d'accord, juste pour revenir sur ce que vous disiez par rapport au cadre, le fait que ça soit codifié, bon très bien, c'est codifié, enfin c'est pas codifié, en tout cas c'est dans la loi, très bien, mais on va dire le contexte juridique était très clair avant, la jurisprudence était très claire avant. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est dans la, enfin c'est mieux que ça soit dans la loi, mais en tout cas, c'est mieux que ça soit dans la loi, mais en tout cas tout le monde savait très bien quel était le cadre, et quand j'étais dans une subvention et quand je n'y étais pas. Enfin, tout le monde le savait. Et du coup, les gens qui auraient aujourd'hui intérêt à agir en disant bah, vous n'êtes pas dans le cadre, hier ils pouvaient le faire aussi. Et demain ils le feront toujours. Ça, si vous voulez, ça, à mon sens, ça ils ne le feront pas. Mais effectivement, moi, je ne vois pas d'évolution majeure sur le fonctionnement de la sub.
Quoi. Ouais. Pas changer, non, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, la définition de la subvention telle qu'elle est dans la loi, elle reprend les principaux éléments de la jurisprudence. Ouais. Ce qui peut être espéré, c'est que le fait que ce soit dans la loi, c'est pour les services juridiques plus facilement opposable. Enfin, ça fait un peu parallèle avec le code des marchés publics et pour les associations. Par contre, sur effectivement les critères, enfin la façon dont c'est défini, c'est la même chose que ce qui était fait jusqu'ici, et que effectivement les principaux points qu'on évoquait sur la question de l'initiative associative et des difficultés de travailler là-dessus, sur la question du fait que la subvention serait moins contrôlable. Enfin, il y a un certain nombre d'idées reçues aussi, dont on espère que la loi, les débats qu'il y a eu, les débats très intéressants à l'Assemblée qu'il y a eu au moment du vote de la subvention, permettent aussi de faire avancer un petit peu les mentalités sur ces questions. Je propose peut-être...
Ouais, juste avant de...
Bah justement, et après tu enchaîneras directement sur l'action.
Qui suppose B aussi en la matière, mais l'impression que ça donne en tout cas, c'est qu'on est sur une évolution empirique des choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est passé d'une logique de la culture de la subvention donnée et distribuée aux associations pour une mise en œuvre d'action, mais un financement général, à une culture de marché public et de conventionnement pour un certain nombre d'actions très préfléchies, très orientées, à aujourd'hui plutôt une logique d'entrée territoriale. C'est-à-dire que, et c'est ce que font les différentes collectivités, quel que soit leur niveau, à des échelles territoriales très différentes, mais de dire, on réunit les acteurs sur ce territoire, et collectivement, on identifie des besoins, et on identifie surtout, et on travaille sur des réponses à ces problématiques et à ces besoins. Et aujourd'hui, on revoit, je dirais, la subvention sous un nouvel œil. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de prestation de services clairement définie, mais on construit une réponse collectivement et chacun apporte une partie du financement, en tout cas pour ceux qui le peuvent, les différentes collectivités, via une subvention, mais au service d'un territoire et d'un projet. Et je pense que la loi retraduit un petit peu cette évolution de mentalité, cette évolution de pratique, en tout cas au niveau des collectivités.
Qui est une vision assez positive, enfin, c'est intéressant, justement par rapport à l'expérience.
J'ai été chargé de mission DLA pendant longtemps, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à toutes ces actions-là. Et aujourd'hui, le regard que j'en ai de par, je dirais, l'action qui est la mienne au niveau du collectivité, et par la dynamique qui est menée par notre président, je dirais, de territorialisation de l'action publique, on est vraiment dans cette dynamique-là.
Ouais,
c'est de fédérer sur un territoire toutes les initiatives en réponse à des problématiques avec une individualisation de l'action. Quoi. Et sur des territoires, on met en place des actions qu'on ne mettra pas ailleurs parce qu'elles correspondent à un véritable besoin. Et du coup, on rentre aussi dans une autre logique de financement et on n'est pas forcément dans une logique de commande, alors publique ou pas, mais en tout cas, on revoit l'organisation.
Ok. Peut-être qu'on profitait pour présenter l'action du Conseil général de l'Allier avec un peu les conditions de réussite.
De débat. En fait, quelques petits éléments de cadrage. Je dirais, deuxième loi de décentralisation, 2004, les collectivités se retrouvent à intégrer des nouvelles activités et de nouveaux personnels. Et dans ce cadre-là, en 1er janvier 2006, arrive le personnel technique des collèges, les fameux TOS, techniciens ouvriers de service, qui sont chargés de l'accueil, de l'entretien des locaux, des bâtiments et de la restauration. Et je dirais, au regard de ces nouveaux métiers et de la pénibilité de ces métiers, on voit arriver aussi une nouvelle population et de nouveaux besoins au niveau de la collectivité. La gestion des ressources humaines telle qu'elle se faisait jusqu'à présent est complètement différente. On voit des métiers où la qualification est extrêmement faible, alors que plutôt dans les collectivités, on était sur de la rédaction de schémas, des orientations, un nouveau type de population, des métiers très pénibles et avec, je dirais, un taux d'absentéisme et des difficultés physiques pour exercer les métiers extrêmement importants. l'État nous transfère ce personnel-là avec un volant de contractuels, donc un certain nombre d'agents titulaires, un certain nombre d'agents contractuels, pour pallier à un certain nombre d'absences. Très très vite, le constat est établi que ça crée un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des collèges. On a un grand volume de contractuels qui ne correspond jamais aux besoins parce que tout le monde les a besoin en même temps, sur des territoires très éclatés. Et là, on part sur une logique de besoin, c'est comment on pourra améliorer les choses. Bah, le point de départ du département, c'est ça. Parallèlement, est en train d'être rédigé le plan départemental d'insertion. On est sur la période 2005-2008, hein, les premiers dialogues de gestion avec les opérateurs d'insertion et des élus qui s'emparent de ces dynamiques autour de l'ESS en se disant, est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, aussi intégrer cette dimension-là. On lance une première expérimentation pendant 6 mois. On se dit, on va réunir les associations intermédiaires du territoire et on va voir dans quelle mesure elles ne pourraient pas répondre à nos besoins de remplacement ponctuel dans les collèges pour des missions qui ne demandent pas des qualifications particulières. Bon.